La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce grain de causette consacré au projet Lire notre monde. Alors, certains esprits conformistes s'intéressent aux JO à Paris en 2024, mais nous, à la e-communauté culture et territoire, on a préféré, et de loin, mettre en lumière la labellisation de l'Eurométropole de Strasbourg en tant que capitale mondiale du livre, avec à la clé un projet à la fois ambitieux et pluridisciplinaire de lecture publique. C'était donc une occasion rêvée de nous intéresser à un programme inédit en France, on reviendra là-dessus, consacré au débat d'idées, aux forces créatives, aux enjeux écologiques également, à travers 25 programmes et 200 activités et événements valorisant le livre et la lecture sous toutes ses formes. Et qui de mieux que sa chef de projet pour nous en dire deux mots ? Anne-Marie Bock, vous êtes conservatrice de bibliothèque, administratrice de la fonction publique territoriale, vous co-présidez l'association des bibliothécaires départementaux, l'ABD. Après la médiathèque de Haguenau, vous avez dirigé la bibliothèque départementale du Bas-Rhin de 2007 à 2020, avant d'être nommée directrice de la bibliothèque d'Alsace. Vous intervenez par ailleurs régulièrement comme chargée de cours à l'INET, Institut national des études territoriales, et vous avez dirigé de nombreux projets dans le domaine de la lecture publique et du développement culturel et territorial. Aujourd'hui, vous êtes donc l'heureuse chef de projet Strasbourg, capitale mondiale du livre, UNESCO, au sein de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, un projet qui fédère bien au-delà du monde de la culture et qui a été baptisé, on va y revenir car c'est sans doute très significatif, Lire notre monde. Moi, ça m'a beaucoup interpellé et intéressé ce choix de titre. Anne-Marie Bock, bonjour.
Bonjour Thibaut Canipti.
Alors je vais essayer de continuer à vous voyez Anne-Marie Bock en oubliant que nous fûmes des condisciples à l'ENSI et que nous avons fait les 400 coups, surtout moi. Donc après Guadalajara en 2022 et Accra en 2023, l'UNESCO vient donc de désigner Strasbourg comme capitale mondiale du livre pour 2024. On connaît assez peu ce label et ce qu'il implique. Les villes désignées capitale mondiale du livre de l'UNESCO s'engagent à mener des activités dans le but d'encourager une culture de la lecture et de diffuser les valeurs du réseau à tous les âges et à tous les groupes de population, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales. Pourriez-vous nous expliquer, Anne-Marie, ce qu'implique cette nomination pour une grande collectivité comme Strasbourg ?
Alors juste une petite capsule en préambule, je ne suis plus coprésidente de l'Association des bibliothécaires départementaux, fort heureusement pour eux, puisqu'ils ont un autre destin, nos routes, et puis parce que chaque jour suffit sa peine, se sont un petit peu distanciés, mais nous avons une très forte amitié, mais je voulais quand même vous dire que les coprésidentes Céline Menguin et Christelle Belin ont toute mon amitié, mais voilà, pour le moment, l'ABD vit sa grande vie. Alors, effectivement, si on se recentre sur Strasbourg, qu'est-ce qu'implique cette nomination comme une ville et une métropole comme celle de Strasbourg ? C'est déjà une vision politique. Ce projet de candidater était un des axes de politique culturelle inclus dans le programme électoral de l'actuelle majorité, donc au moment où elle s'est présentée devant les électeurs en 2020. Ce qui suppose également d'avoir une forme de diagnostic, des forces en présence et mobilisables pour un projet de cette nature, et effectivement de considérer que la ville de Strasbourg, dans toutes ses composantes, à la fois culturelles, mais également sociales, et également on verra aussi sur d'autres champs socio-économiques, avait toutes les capacités pour faire valoir à la fois une trajectoire historique, mais également une dynamique. Certes, bien solide déjà en 2020, qui est le fruit de toute une histoire, mais qui pouvait encore aller au-delà des modalités habituelles de développement culturel, avec effectivement la vision que la culture permettait une capacité de dialogue entre des politiques publiques, et notamment avait affaire avec une dimension d'émancipation et d'autres grosses thématiques de l'équipe municipale quand elle s'est présentée aux élections en 2020. Donc ce que ça implique, c'est déjà un portage politique partagé entre une équipe d'élus et qui, effectivement, au-delà du seul champ culturel, on reparlera sans doute. C'est bien entendu, le deuxième point, un arrimage important de ce projet politique avec les valeurs de l'UNESCO et une forme de concordance de valeurs, de conjonction de valeurs sur le lien entre le développement éducatif, le développement social et puis les enjeux de lutte contre le changement climatique et d'émancipation des individus. Donc c'est également une ville qui a fait un choix d'investir très fortement dans l'éducation sur ce mandat, hein, à travers beaucoup de projets au niveau des écoles, beaucoup de réinvestir, en tout cas d'accroître les moyens dédiés à l'éducation. Et puis, le troisième et dernier point par rapport à cette question, c'est qu'on est clairement dans une vision de long terme. Certes, la ville de Strasbourg sera capitale mondiale du livre 2024-2025, mais dès que j'ai pris mes fonctions au 1er septembre 2021, c'est à la fois presque une vie qui est passée et puis très très court quand j'y réfléchis, il y avait cette affirmation qui a toujours été cohérente et constante de dire, eh bien, ce qu'on propose, ce qu'on construit pour ce programme de candidature, nous le ferons. Alors, nous le ferons peut-être pas forcément dans toute sa dimension, ni au même rythme, mais en fait, il y avait vraiment cette volonté de pouvoir transformer, en fait, durablement, certains aspects de politique culturelle, y compris dans leur méthode, de façon durable. Et je crois que ça s'inscrit pleinement aussi dans ce que cherche l'UNESCO, en tout cas dans un des items du projet de candidature que j'ai pu écrire. Il y avait qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va perdurer. Et ça, on se pose rarement la question, en fait, dans ce qu'on fait, ok, on a des éléments d'évaluation, des outils de pilotage, etc. Mais vraiment, de dire ça, il faut que ça reste, ça, nous souhaitons que ce soit durable et pérenne. Voilà, c'est un petit peu les trois marqueurs qui me semblent très impliquants dans ce projet pour Strasbourg.
Ouais, c'est sacrément intéressant. En tout cas, on aura compris que ce n'est pas un one-shot, hein, qu'il y a une volonté aussi de transformer l'Eurométropole avec cette action. Je crois, Anne-Marie Bock, que vous avez également porté cette candidature, avant même que vous soyez nominée. Vous avez porté cette candidature de Strasbourg pour cette labellisation. Et je rappelle que Strasbourg est la première capitale mondiale du livre française depuis le lancement de cette opération. Comment prépare-t-on une telle candidature? Comment un tel dossier se monte auprès de l'UNESCO? Et comment êtes-vous parvenu à mobiliser les acteurs locaux autour de cette initiative que, par définition, ils devaient mal connaître, sans doute, hein?
Alors, je dirais que le premier point, c'est que le principe de candidater pour être capitale mondiale du livre, il y avait déjà des germes. Hein. Il y avait des personnes qui, dans les années précédentes, et notamment, je pense, aux collègues de la BNU, la Bibliothèque nationale universitaire, qui avaient lancé cette idée il y a quelques années, et puis, c'était pas le moment, c'était pour X raisons, ça ne s'est pas concrétisé à ce moment-là. Donc, il y avait des acteurs déjà qui, en tout cas, n'excluaient pas qu'il y avait cette conscience, en fait, des forces de la ville. Et puis, quel meilleur endroit pour avoir cette conscience quand on est dans la deuxième bibliothèque de France, à la Bibliothèque nationale et universitaire, qui est le fruit quand même de la reconstruction, avec une force symbolique extrêmement forte, hein, de la bibliothèque de Strasbourg après son incendie pendant la guerre de 1870. Donc, en tout cas, il y avait eu cette évocation. Après, quand on est dans l'instant présent, hein, avec une équipe politique, avec également évidemment aussi une direction de la culture qui repense son projet de direction, il y a une conjonction des astres qui est importante. N'oublions pas non plus que nous étions dans l'année la lecture grande cause nationale. Donc c'est un moment où il y a une forme d'alignement des planètes entre une politique nationale, une ambition politique locale et au final une forme de maturité des acteurs locaux, je dirais, et puis moi-même qui arrive avec au final mon parcours professionnel, si je puis ajouter ce petit élément d'alignement des planètes. Donc, comment on s'y prend? Alors, le premier point, c'est déjà de pouvoir aller à la rencontre des différents acteurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je crois que j'ai fait plus de 400, 450 entretiens. Aller dans les librairies, rencontrer les éditeurs, voir évidemment les bibliothèques hein, au premier chef. Et au-delà, aller également à la rencontre de tout ce que je pouvais envisager comme contribution, comme enjeu, etc. Et surtout, on est pas le point de départ, c'était quand même les axes stratégiques fixés par les élus. Donc, ils sont au nombre de 5, ce sont nos fameux 5 axes, qui sont notre fondation. C'est vraiment là, voilà. Les murs porteurs sont les programmes, et ces programmes, en fait, ils sont nés de la contribution, on va dire, à l'occasion de plusieurs forums ouverts. Donc, on est aussi dans un mode projet très participatif, on est dans une forme de management de la coopération hein, dans ce projet. Avec ben, comment répond-on à ces défis-là? Comment, à travers le livre et la lecture, on répond à ces axes de transition sociale et écologique? Comment on fait, à travers le livre et la lecture, que cette ville laisse une place, fasse une place, accompagne l'éducation des enfants, mais pas uniquement dans le champ éducatif, mais aussi dans tous les aspects de leur vie? Donc ces questions, on a problématisé un petit peu ces axes de départ. Et puis, à travers des forums ouverts, eh bien, on a récolté 340 idées, envies qu'on a structurées en programme. Donc, une méthode participative, une mise en synergie, une espèce de parcours itératif. Puisque de fil en aiguille, les différents partenaires ont dit « Oui, mais voilà, sur ce champ-là, il y a aussi un tel qui agit. » « Ah d'accord, donc s'il y a un tel, on va l'inviter. » Donc, on a constitué un noyau dur avec les acteurs plus de la filière, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, et puis les associations assez reconnues, connues, identifiées, bien identifiées. Et puis ce réseau s'est, je dirais, agrandi, s'est agrémenté. On a fini par avoir la Banque alimentaire, par avoir Emmaüs, par toucher beaucoup d'entreprises également. Et au final, on peut dire quand même que ce qui caractérise ce projet, ce n'est pas forcément une révolution dans la méthode, c'est plus dans les champs de politique publique concernés. Et donc, demain, il se trouve qu'on a un autre temps, parce que ce réseau, désormais, c'est dans la dimension pérenne du projet, ça va rester, c'est clair et net. Il suffit qu'on envoie un mail, on a 90 participants en l'espace de quelques minutes, donc une envie de participer, et au final, comment on s'en est pris? Quand on y regarde comme ça avec un œil d'enfant, que je peux avoir encore vraiment beaucoup, c'est dire, mais en fait, quand on vous propose de participer à un projet comme Capital Mondial du Livre, vous dites que vous répondez quoi? Vous avez un cours de macramé? Ben non, vous y allez. Donc, il y a vraiment ce travail de mise en synergie. Et demain, ben, par exemple, on a nos rencontres professionnelles où on rentre dans la thématique. On a eu 4-5 réunions pour la conception du projet. Et maintenant, en fait, on évolue et on est dans la mise en œuvre. Donc, avec les outils habituels du mode projet, des outils de pilotage, une bonne répartition des rôles, des espaces d'animation, des outils de communication et évidemment le dialogue permanent entre ce réseau, dans une triangulation, le réseau, l'aspect technique et les élus. Voilà, un dialogue permanent et puis avec aussi la mise en place d'un comité de pilotage avec l'ensemble des élus concernés, ce qui fait presque tout le groupe. Et voilà un peu pour... répondre à cette question sur comment s'y prend-on. Avec, au final, on ressent beaucoup de fierté et aussi une connaissance quand même de plus en plus complète de ce que font les uns les autres. Et pour moi qui ai travaillé tout mon parcours dans les bibliothèques publiques, qui avait l'impression absolument erronée de tout connaître, puisqu'à la médiathèque, il y avait plusieurs milliers d'abonnés, ah là, c'est le retour à l'humilité.
Enfin, j'imagine quand même que votre background, votre aura dans la profession et puis localement aussi, hein, a dû jouer aussi fortement pour que la mayonnaise prenne, hein, parce que ces projets-là, ce sont des projets humains quand même. Hein.
Ouais.
Alors, lors de sa déclaration de candidature en avril, Strasbourg avait fait valoir la vitalité de la filière du livre dans l'agglomération. Avec 40 maisons d'édition, de nombreuses manifestations culturelles, hein, très très différentes, cet environnement, cette chaîne du livre dans la capitale européenne était-il, selon vous, un préalable à la réalisation de ce projet ?
À première vue, de façon un peu réflexe, je ferai une réponse de Normand en disant oui et non. Mais en prenant quelques secondes de plus, je répondrai oui, indéniablement, puisque même si, en fait, les attendus d'un projet comme Capital Mondial du Livre n'a pas vocation à rester enfermé dans les racines historiques, dans les trajectoires historiques, elle a une vocation de propulsion vers l'avenir, hein, et de, comment dire, d'inventer de nouvelles voies pour l'avenir. Vraiment, l'histoire de la ville de Strasbourg est alors au-delà de Gutenberg, parce qu'évidemment, celui-ci va avoir un programme qui va s'appeler « Gutenberg, ta place est ici ». Mais quand même, quand on pense qu'en 1840, quand la statue de Gutenberg a été installée en plein centre de Strasbourg, il y a eu 3 jours de fête à Strasbourg avec des restes, des traces historiques et le témoignage matériel de tout ça au musée historique, avec des milliers de personnes et toutes les corporations qui pendant 3 jours, avec il y avait environ 3 000 à 4 000 personnes, ont défilé pendant 3 jours, ont fait la fête pendant 3 jours. À Strasbourg, en 1840, donc ça, Gutenberg était loin dans le passé. On a tous les ingrédients entre Tommy Ungerer et les éditions 2024 qui remportent, voilà, qui sont aussi parmi d'autres, hein, notre fierté en termes de rayonnement éditorial, qui remportent des prix Angoulême, qui vont ouvrir sans doute un bureau à Montréal et qui vraiment ont une histoire aussi. Et vont faire édition 2024 quand même, s'appelle-t-elle. Elles vont fêter leurs 20 ans du coup l'année prochaine. Et puis, évidemment, je repense également à Jean-Michel Maulpois, qui réside à Strasbourg, qui a le prix Goncourt de la poésie. Il y a un environnement qui, évidemment, constitue une force. Mais de là à dire que ça aurait suffi, à savoir si chacun isolément, avec, dans sa spécialité ou dans une forme d'isolement, voilà, tout ça aurait bien pu fonctionner. Je pense que c'est le fameux 1 plus 1 égale 3, c'est la synergie entre ces acteurs et leur capacité à se projeter ensemble vers une forme de commun, de bien commun. C'est ça, me semble-t-il, qui peut expliquer, en tout cas, et sans compter, je n'oublie pas non plus la force de l'université, qui bien sûr est connue à travers ses prix Nobel dans le domaine scientifique, mais qui est un partenaire extrêmement fort, hein, dans notre projet, puisque c'est 60 000 étudiants, dont 20 000 étudiants étrangers. Donc, à travers les étudiants, c'est également toutes les cultures qui se rejoignent à Strasbourg, et également avec notre axe 3, Strasbourg-Ville-Refuge, une université, avec Marc Bloch, qui a eu aussi cette histoire, cette trajectoire historique, et qui accueille des étudiants en danger dans leur pays, des chercheurs en danger dans leur pays, qui fait qu'effectivement, la ville a pu aussi adhérer au réseau ICORN, hein, donc des villes refuges, et pour lequel nous avons le projet d'accueillir un écrivain en résidence pendant 2 ans. N'oublions pas que Strasbourg a accueilli Salman Rushdie tout au début du moment où il a été sous l'emprise d'une fatwa. C'était dans les années 90. Ça a donné lieu à l'appel de Strasbourg qui avait été signé par 100 écrivains de Boualem Sansal à David Grossman. Il y a vraiment cette ville qui aussi réussit à dialoguer quand même avec l'histoire, hein, je crois, y compris sur la base de ses blessures. Et je le vis vraiment au quotidien avec l'ensemble de ces acteurs à des échelles et sur des thématiques très différentes. Donc, avec le recul, je dirais oui. Il me semble que Strasbourg est dans sa force et sa singularité. Ce projet, il combine une grosse connexion avec l'histoire et en même temps une capacité de se propulser.
Ouais, le poids de l'histoire et puis le statut international quand même de cette ville, hein, qui est indiscutable. L'UNESCO et le comité consultatif de la capitale mondiale du livre indiquaient dans un communiqué avoir, je cite, « été impressionné par l'accent mis par Strasbourg sur le livre comme moyen de relever les défis de la cohésion sociale et du dérèglement climatique ». Est-ce à dire, selon vous, que la lecture publique dépasse les cadres des politiques culturelles et peut être un levier de transformation sociale et écologique ?
Alors, du coup, Peut-être que je reformulerai un petit peu en changeant l'ordre du mot, des mots, une politique de lecture publique, effectivement, agglomère et met en synergie un ensemble d'ingrédients. Et c'est cela aussi, à titre personnel, le grand apprentissage que je fais dans ce projet, puisque nous avons un gros programme sur le sport, avec les clubs sportifs, où je découvre l'implication des clubs sportifs dans ce qu'ils font, comme, on va dire, accompagnement extra-sportif, voilà, où je découvre ça. Alors là, grosse découverte, hein. Où je me rends compte à quel point les entreprises commencent à percevoir les enjeux liés à l'illettrisme, par exemple, et où la notion de lecture, c'est aussi lire le vivant. En ce moment, c'est très important de pouvoir aussi peut-être faire évoluer la conception de la lecture. Alors la lecture publique, effectivement, elle embarque les lieux, elle embarque des lieux culturels, elle embarque une forme de technicité, elle embarque des expertises, elle engage des ressources culturelles. Et tout ça, effectivement, je crois qu'on... Les bibliothécaires, en tout cas, se sous-estiment beaucoup dans leur capacité. Et aussi, en tout cas, c'est l'expérience que je fais depuis maintenant le mois de septembre 2021, que cette capitale mondiale du livre, en tout cas pour Strasbourg, c'est un moment idéal pour pouvoir rendre conscient les uns les autres de différents enjeux dans leur propre langage. Donc c'est un rôle de traducteur que j'ai aussi. Donc si on prend tout le spectre, hein, entre le champ sportif, entre évidemment toute la dimension éducative à travers l'école, mais aussi à travers les cours de français langue étrangère, en passant par les entreprises et puis au final la filière plus livre, et bien entendu nos collègues du social qui sont très engagés dans ce projet et pour lequel il y a beaucoup de représentations, hein, et les représentations, tout le monde en a les uns sur les autres, mais il y a encore quelques années, quand je travaillais dans un département, au département, j'entendais beaucoup les collègues du champ social qui disaient « Mais avant tout, nous, on a des urgences au quotidien et les gens, avant tout, il faut qu'on trouve comment ils peuvent se nourrir le lendemain ou comment ils peuvent se loger, etc. » Et c'est bien entendu très compréhensible et il n'y a pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, dans les différentes rencontres que je peux mener, vraiment, il y a toujours un peu quand même cette espèce de tension, hein. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de recherches de dépasser ça, et j'entends de plus en plus de collègues du champ social qui disent « Non, mais attendez, aujourd'hui, pour nous, la culture, c'est vraiment un des leviers qu'il faut considérer comme tout aussi important. » Alors bien sûr, dans l'immédiateté des situations, dans les heures, dans les jours, il y a des urgences. Mais néanmoins, en tout cas, cette candidature illustre, hein, la force en fait d'une politique publique de la lecture, ce qu'elle peut enclencher comme dynamique dans une collectivité et en pluridisciplinarité complète, avec tout ce que ça induit aussi comme limite. Quelle est la limite d'un projet comme celui-ci? Voilà ce que je pouvais répondre à cette question.
Alors, Anne-Marie, Jean Foucambert...
J'ai répondu, excusez-moi, mais... Je suis passé par ma passion.
Auquel j'ai beaucoup biberonné, moi, m'étant occupé d'une ville lecture, au travers de l'AFL, hein, l'Association française pour la lecture, parler de lecturisation de la société. Pour dire que cette affaire de la lecture et de l'écriture ne devait pas être laissée aux seuls pédagogues, et même aux seuls bibliothécaires, hein, puisque les bibliothécaires qui l'ont suivi, finalement, considérer aussi que cette question était beaucoup plus large et qu'elle devait engager la société tout entière. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette même démarche lorsque vous faites le choix d'intituler votre projet « Lire notre monde », qui est évidemment pas anodin, je suppose, cette terminologie-là qui m'a beaucoup interpellé?
C'est le nôtre qui fait la différence dans ce titre. Et ce mot, il est venu, on tournait autour, hein, et puis en fait, c'est le nôtre qui a tout débloqué. C'est nous, en fait, nous au sens, nous ensemble qui travaillons autour de ce projet, nous Strasbourgeois, nous sur cette planète, nous ville internationale, capitale mondiale du livre, nous avec Chacun sa culture, chacun son trajet dans la vie, etc. On travaille actuellement, et d'ailleurs dans l'équipe, il y a une personne qui est spécifiquement dédiée, plus particulièrement à ça, à inclure l'ensemble des citoyens et des habitants dans le projet. À la fois en intégrant leurs propositions en permanence, mais en même temps en leur permettant, à travers ce projet Lire notre monde, de se rencontrer, de faire valoir leurs expériences, de participer à leur échelle, comme ils ont envie, comme ils le peuvent, comme ils le souhaitent. Et effectivement, le nôtre, il couvre... Qui est-ce qu'il concerne? À la fois les grands écrivains, les grands paramarraines, les personnalités qui vont nous accompagner et pour lesquelles on est actuellement en train de concevoir un petit peu un cadre d'intervention sur la base de leurs envies, pour chacun des axes. Donc faire appel aussi, profiter de ce projet Lire notre monde pour avoir une aide à la création et pour avoir des textes aussi, des écrivains, pourquoi pas même des chansons, on est là-dessus. Donc le nôtre, c'est en fait le regard des artistes, le nôtre, c'est le regard des médiateurs, qu'ils soient les bibliothécaires, qu'ils soient des collègues du social, qu'ils soient des animateurs sportifs, qu'ils soient des libraires, des éditeurs. Et puis le nôtre, ce sont les habitants, les touristes de passage, ceux qui à un moment donné vont se croiser, vont se rencontrer, et y compris quand je dis le nôtre, ce sont les personnes que la ville de Strasbourg accueille dans les lieux de refuge, puisqu'on est des premières portes d'entrée, par exemple d'accueil, ville d'accueil, notamment de populations provenance d'Ukraine, d'autres types de personnes, pour lesquelles, qui arrivent souvent en France par cette ville très, internationale. Donc, lire notre monde, en fait, c'est au final, à un moment donné, de dire chacun comme il est, avec sa propre histoire, comment on en fait aussi un moment, au final, de collectif, de communauté, de vitalité, de compréhension, de découverte. Donc, bien sûr, par exemple, il y aura des bibliothèques vivantes, on va avoir le dispositif des biographies langagières, pour aussi à travers les différentes langues qui sont à la fois enseignées, puisqu'on est aussi un grand centre d'enseignement des langues à l'université, mais également parler partout en ville. Donc, lire notre monde, c'est en fait, à un moment donné, trouver des moyens de réfléchir ensemble et de dire les mots, de parler, de décrire, à la fois... chacun isolément, mais aussi dans sa manière de vivre aujourd'hui et puis de le partager. Donc en fait, on va avoir beaucoup d'événements qui ont cette vocation de faire des grandes chaînes de lecture, des moments de rencontre, en ayant une attention vraiment très particulière sur l'espace public et aussi sur le maillage territorial, avec la forte mobilisation, alors évidemment des 14 bibliothèques, plus les sites de l'université, mais vraiment en s'appuyant également sur des dispositifs de médiation itinérants très mobiles. Donc, notre monde, c'est à la fois chacun comme il est, comme il se trouve à ce moment-là à Strasbourg, avec des artistes, mais également en ayant une notation vraiment très forte sur les quartiers, parce qu'on a aussi des zones blanches encore à Strasbourg, il n'y a pas un maillage de médiathèques tout à fait encore à 100%, mais néanmoins il y a aussi le dispositif de bibliobus, il y a tout un ensemble de dispositifs. Donc lire notre monde, c'est un peu un moment qu'on souhaite vraiment collectif et qui amène chacun à dépasser ses préjugés, mais aussi à croire en ses capacités d'écrire avec ses mots ou de dire avec ses paroles le monde tel qu'il le voit. Donc c'est au-delà de la lecture, c'est aussi des programmes qui vont inviter à écrire, à parler à travers des podcasts, à travers aussi un site internet qui sera très interactif, mais pas que, là, je parle d'un outil, un peu pour le titre Lire notre monde, avec évidemment l'enjeu de pouvoir apporter quelque chose, on va dire, au réseau des villes capitales mondiales du livre et au final à avoir une contribution au bien commun universel qui serait la trace de Strasbourg et avec toute son énergie.
Alors tu me tends la perche en évoquant l'écriture. Le Lire notre monde souhaite notamment faire émerger de nouvelles formes d'écriture, qu'elles soient collectives, scéniques, numériques évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette volonté de faire émerger l'écrit, encore une fois, dans une dimension participative autour de ce projet ?
Alors il y a déjà, je commencerai, là aussi on a un large spectre, je commencerai par tous les dispositifs qu'on va mettre en place, notamment avec des partenaires de collectage des récits de vie, hein, avec la perspective également de publication, de valorisation, de restitution, etc. Donc avec également, notamment, je pense à un partenaire notamment qui s'appelle Actemo Théâtre, hein, qui fait également, qui a vraiment fait des appels à texte, hein, donc avec vraiment très 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 ouvert, avec tout type de public et avec des partenariats avec différentes structures de la ville. Je pense aussi, et ça c'est peut-être, je ne l'ai pas encore évoqué, à l'engagement de la ville pour ses propres agents. Et nous avons un projet de collecter, de travailler donc sur les de faire émerger, c'est presque un processus un peu maïotique, les récits de des agents qui travaillent sur certains métiers, notamment avec des horaires décalés, des métiers pas forcément déjà qui peuvent être originaux, mais aussi qui peuvent ne pas forcément être très connus. Donc là, c'est pareil, on a vraiment aussi une démarche interne à la collectivité pour laquelle on a formé, on a eu une offre de formation spéciale Lire notre monde pour former à la lecture à haute voix des agents volontaires, avec aussi, je dois le souligner, vraiment aucun frein en interne, hein, au niveau de la collectivité, donc qui eux-mêmes ont organisé le quart d'heure de lecture. Donc là, on n'est pas encore dans l'écriture, mais en tout cas, il y a vraiment prévu un dispositif aussi interne de collecte de récits, d'écriture, et notamment de faire de l'écriture, des ateliers d'écriture, un des aspects de bien-être au travail. Hein, par exemple, dans des situations un peu de conflictualité ou de difficulté, ben, je pense que ça permet aussi une prise de recul. Ensuite, j'ai évoqué précédemment le compagnonnage d'écrivains, d'écrivaines. Nous avons également le TNS, hein, Théâtre National de Strasbourg, qui est une des grandes écoles de théâtre en France. Donc, avec également des compétences, des capacités à pouvoir vraiment... y compris financer, hein, dans le cadre du projet, des masterclass, des bourses d'écriture, mais qui se vivent, qui s'envisagent, évidemment, dans la relation aussi, dans la relation au public. Et puis, on a un programme qui s'appelle « Waouh, je lis, j'écris ». Donc c'est évidemment dans ce contexte tout le lien avec aussi le rectorat, les dispositifs du JPAC MISA qui permettront aussi d'accroître les actions dans les écoles et évidemment aussi avec une attention toute particulière vers les cités scolaires et notamment les adultes, les jeunes adultes en difficulté de lecture-écriture. Et là, on a vraiment, du coup, constitué une forme de panel de partenaires qui ont déjà ces compétences et qui vont pouvoir, à travers des leviers financiers spécifiques, être vraiment dans des moments de médiation. Et puis, évidemment, nos futurs outils vont vraiment prévoir toute la contribution des citoyens. On les invite à écrire, à afficher des mots à leur fenêtre, à s'offrir des livres, à s'offrir des textes. Voilà, donc on est dans à la fois l'écriture au sens le plus conséquent du terme et qui pourrait être édité, puis à la fois dans des écrits plus quotidiens et des récits de vie, pratiquement dans tous les... En fait, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir des propositions et des possibilités dans tous les moments de la vie, en fait. Voilà, y compris en pensant à nos personnes, à nos anciens, hein, avec un dispositif qui s'appelle Viens chez nous, qu'on appellerait Viens lire ou écrire chez nous, qui est porté par nos collègues de la direction des solidarités.
Alors, on est écouté par beaucoup de bibliothécaires territoriaux sur Fréquence T, et forcément, il faut que je vous pose la question, et les bibliothèques dans le projet, hein. On sait que l'Eurométropole possède un réseau assez dense, hein, au niveau métropolitain en tout cas, de 59 bibliothèques publiques ou patrimoniales, dont la Bibliothèque nationale universitaire que vous avez citée. Comment sont-elles associées à cette dynamique? Est-ce qu'elles sont un petit peu le fer de lance, finalement, de cette action qui les concerne particulièrement, je dirais?
Alors, déjà, j'ai envie d'adresser un message particulier aux bibliothécaires, parce qu'il me tient vraiment à cœur de le dire. Quand je suis allée voir la personne en charge de ce dispositif à l'UNESCO, j'ai oublié de citer en préalable aussi l'accompagnement de la Commission France de l'UNESCO, parce qu'évidemment, il y a aussi quand même une forme de guidage dans un monde, celui des organisations internationales, qui a ses propres codes et qui nécessite aussi quelques points d'attention. Alors, pour en revenir, j'en viens aux bibliothécaires, parce qu'en fait, quand j'ai été rencontrée, Yann Denison, il m'a demandé quel était mon parcours. Je lui ai dit, moi, à la base, mon métier, c'est bibliothécaire. Et il m'avait répondu, et c'est pour ça que je veux le partager ici, on voit que les meilleurs dossiers sont supportés par les bibliothécaires et dans le monde entier. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une partie de la réponse, la réponse à cette question. C'est-à-dire qu'effectivement, les bibliothécaires sont au cœur du dispositif, sans en être non plus l'alpha et l'oméga. Hein. Elles sont au cœur du dispositif pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le maillage territorial et le lien au quotidien dans tous les quartiers, avec toutes leurs compétences en médiation, sont une force absolument extraordinaire. Hein. Et ça, il y a quand même, au final, en 2024-2025, tout le réseau des bibliothèques de Strasbourg, ce seront des lieux lire notre monde, en fait. Hein, ils pourront à la fois valoriser les activités, se faire, aussi les ambassadeurs, les promoteurs, etc. Mais bien sûr, ils sont aussi très engagés dans la mise en œuvre, on va dire, du programme. Sur les 200 activités, il y en a environ 30-35 qui relèvent spécifiquement de leur action, sans compter l'ouverture d'un nouveau site, hein, sur le réseau, hein, qui est un site métropolitain, qui est une grande médiathèque de secteur. On vient d'avoir un nouveau bibliobus qui va avoir deux points d'arrêt nouveaux, qui est un nouveau type de véhicule. Et puis évidemment, la perspective que la capitale mondiale du livre soit une opportunité pour compléter ce maillage territorial, notamment dans un des quartiers qui est particulièrement singulier à Strasbourg, qu'on appelle le port du Rhin, et qui est juste à la frontière avec l'Allemagne, et qui est un des quartiers qui a fait beaucoup parler de lui quand il y a eu la rencontre en 2009 de ce fameux, alors cette instance internationale, je ne sais plus, il y a eu souvent des à Gênes, et ils sont venus à Strasbourg, ça y est, j'ai oublié, ça me reviendra. Bref, un quartier qui est vraiment assez propre à des difficultés, mais en même temps qui est en pleine résilience avec beaucoup de changements au niveau des populations. Donc voilà, un maillage territorial qui va se compléter. Donc forcément, on va dire, des ponts avancés, hein, pour la capitale mondiale du livre et notre capacité à irriguer le territoire. Ensuite, les compétences en médiation. Alors évidemment, dans les différents programmes et différentes activités des médiathèques, on est évidemment sur toutes les réflexions des bibliothèques vertes, avec une des collègues de la ville de Strasbourg qui est impliquée dans le groupe ABF, hein, Bibliothèques vertes. Et notamment, demain, c'est une de nos thématiques des rencontres professionnelles de demain sur l'écologie, parce qu'en avril 25, pour clôturer la capitale mondiale du livre, on souhaite organiser un grand colloque international sur l'écologie pour le livre. Donc les compétences en médiation, les ressources culturelles qu'ils pensent pour aujourd'hui et puis pour demain, et par exemple, toute leur inventivité impressionnante à Strasbourg en tout cas, qui a été particulièrement, en verve lors de la dernière nuit de la lecture, avec des escape games, avec une inventivité assez impressionnante. Donc bien entendu qui vient, on va dire, je pense aussi au bal d'Alton dans le cadre du Festival des Enfantines, vraiment cette capacité de médiation au quotidien, d'inventivité, Et puis évidemment, des événements qui existent habituellement dans les médiathèques qui vont pouvoir, grâce à la capitale mondiale du livre, avoir une densité plus importante. Je pense aux médiathèques en débat sur l'axe 1, ville d'idées et de débat. Je pense aux enfantines sur l'axe 5, qui vont pouvoir avoir une édition un peu plus spécifique. Je pense également au festival Graines Urbaines, qui est porté par une des médiathèques du territoire. Et évidemment, le quart d'heure de lecture, les nuits de la lecture, et puis toutes les activités habituelles. Là où les bibliothèques aussi se saisissent de la capitale mondiale du livre, c'est évidemment aussi pour, au final, repenser une forme de stratégie dans leur projet d'établissement. Là, on est sur du moyen à long terme, et quand je disais la dimension transformative, c'est dans la relation à l'école. On a la grande, au final, surprise de cette capitale mondiale du livre, c'est de pouvoir faire le constat qu'il y a un énorme enjeu à réinvestir les bibliothèques d'école dans leur contenu, dans leur modalité matérielle, dans le mobilier, dans la remobilisation des équipes pédagogiques, mais également dans la remobilisation dans le lien aux bibliothèques et aux médiathèques. Donc ça veut dire aussi peut-être un rôle pour moi de lever des freins, mais également de pouvoir peut-être presque construire, hein, et d'ailleurs ça va être le cas avec un futur élève conservateur qui va venir en stage auprès de l'équipe Lire Notre Monde dans les semaines qui viennent, une forme d'ingénierie du livre à l'école, parce que aujourd'hui il peut y avoir, hein, c'est pas spécialement toujours le cas, mais une forme de distanciation entre l'école et le réseau des bibliothèques, des contenus des bibliothèques d'école totalement obsolètes, alors même que les équipes pédagogiques n'utilisent pas les ressources à jour, elles, et puis en plus dans une ville comme Strasbourg, avec beaucoup d'illustrateurs et ce foisonnement au niveau de la littérature jeunesse, j'ai fait un constat absolument que j'ai partagé avec nos élus, assez consternant, sur la situation des bibliothèques d'école, pour lequel évidemment, grâce à la capitale mondiale du livre, on peut un peu aller voir de nos côtés, du côté effectivement du rectorat, pour aussi à un moment donné partager cet enjeu, le repartager, et puis au final remettre une forme de, comment dire, de stratégie au niveau des bibliothèques d'école. Et donc en fait, là, ici, par exemple, les bibliothécaires, dans leurs compétences, leur expertise, eh bien, peuvent vraiment apporter énormément de choses, pas forcément en nombre extraordinaire d'heures de travail, hein, pas du tout. On est valorisé des coups de cœur d'achat, je veux dire, on le fait bien pour les usagers qui viennent, on fait des tables thématiques, des tas de dispositifs de valorisation, etc. Et puis, en fin de compte, en tout cas, moi, mon constat, c'est que les usagers ou les bénéficiaires plutôt directs de toute cette expertise que sont les enseignants, pour des raisons, hein, diverses et variées, ben, on pourrait un petit peu améliorer en fait, hein, ce lien. Et du coup, on travaille beaucoup avec nos collègues des médiathèques. Et en fait, pour... Alors, on n'est pas sur du court terme. Hein. Demain, quelle stratégie pour les bibliothèques d'école pour la ville de Strasbourg, mais en lien évidemment avec le réseau des bibliothèques. C'est tout un champ de réflexion. Donc, c'est assez passionnant parce que ça va être l'histoire qui va continuer à s'écrire. Et pour finir, je pense que les bibliothécaires apprennent beaucoup. Donc, grâce à Capitale Mondiale du Livre, on va pouvoir également mettre en place des formations sur des thématiques, grâce notamment à des leviers financiers qu'on a grâce à du mécénat, parce que c'est aussi un projet qui ouvre à beaucoup, à pas mal de mécénats. Donc, je pense que les bibliothécaires apprennent beaucoup, et notamment, sur cet enjeu au niveau du sport, sur évidemment le champ aussi du handicap. En fait, ils apprennent aussi, en tout cas, ils prennent conscience de façon avec plus d'acuité de l'écosystème de politique publique dans lequel ils sont. Et du coup, je pense qu'ils vont peut-être, un peu mon vœu, et puis je pense mon constat, que leur métier, leurs actions seront, après la capitale mondiale du livre, beaucoup mieux perçues, connues, et que eux-mêmes vont aussi être mieux reconnus dans la diversité de leurs activités. Voilà un petit peu pour les bibliothèques, avec un dialogue permanent. Alors là, pour le coup, il ne se passe pas une seule journée sans avoir des contacts, des liens. Et puis bien sûr aussi, c'est aussi à moi de comprendre, en tant que chef de projet, quels sont leurs propres enjeux, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, mais comme pour tous les autres partenaires, en fait, et de pouvoir en fait identifier là où, en fait, ils trouvent aussi leurs limites en termes notamment d'implication, en termes de temps, en termes de priorité. Voilà, donc vraiment, c'est aussi un grand moment, je pense, pour les bibliothèques de Strasbourg, et un moment qui va, comment dire, qui va porter vers une stratégie pour leur futur projet d'établissement. Et puis beaucoup de une envie extraordinaire, et du coup aussi des référents un peu par activité dans les médiathèques. Donc ça permet aussi de repenser un petit peu les formes de presque la dimension managériale au sein des médiathèques. Voilà, un peu ce que je pouvais dire. En tout cas, ce projet, il est fait avec eux, pour eux, et ils sont vraiment au cœur du dispositif, et ceci, je pense, durablement.
Quand je vous entends parler de réinvestir les BCD, mobiliser les enseignants, aller vers les personnes éloignées, c'est vraiment beaucoup de choses qui me rappellent furieusement Ville Lecture, et je suis très content parce que moi je continue de promouvoir ça avec d'autres, hein, alors qu'on n'en parle plus trop. Et là, c'est vraiment un projet du coup qui fait sens, hein, que celui que vous évoquez. Alors, Anne-Marie, il est temps de terminer cet entretien quasi fleuve, dirais-je, mais extrêmement passionnant sur votre projet. Alors, l'année des célébrations, elle va débuter donc très précisément le 23 avril 2024, lors de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Tiens, tiens. Est-ce que pour conclure cet entretien, vous pourriez nous parler de peut-être d'une ou deux initiatives qui vont se dérouler l'année prochaine et qui vous tiennent particulièrement à cœur, que vous avez envie de mettre particulièrement en avant?
Alors la première, c'est la grande lecture de Strasbourg, cette espèce d'utopie où tout le monde se lit à lire partout, où tout s'arrête, dans les centres commerciaux, dans les trams, sur les places publiques, dans l'espace public, dans les écoles. Donc cette espèce d'utopie qu'on va faire tous ensemble, donc à la fois avec des écrivains, avec des comédiens, mais surtout avec toute la population dans toutes leurs langues, voilà, avec des... pour l'instant, c'est aussi un travail technique, mais cette grande lecture de Strasbourg, je pense que ça va être un moment un peu magique, dans des lieux tout à fait un peu secrets, ou voilà, sur la plateforme de la cathédrale, vous imaginez d'avoir cette expérience, de proposer aussi cette expérience dans le regard des enfants et puis de tous les publics. Je me dis, voilà, ça c'est un des points. Si je prends d'autres types de projets, d'actions, hein, dans le projet, la création du caractère typographique, il me tient à cœur parce que d'abord le caractère Strasbourg, ou je ne sais quel nom il portera, mais c'est également de laisser une trace à la fois qui a tout son sens historique, mais pour le futur et les futurs contemporains, de laisser un caractère typographique. Je crois que Gutenberg, il sera content là où il se trouve, et puis tous nos typographes, parce que c'est éminemment des projets extrêmement puissants, un caractère typographique. J'ai aussi à cœur de voir ce que va donner la saison sport lecture, puisqu'on va continuer ce parcours avec les clubs de sport, et vraiment j'ai très très hâte de voir le résultat d'une résidence de notre sportif paralympique multimédaillé avec un illustrateur qui va donner lieu à un flipbook, donc qui va sortir dans très peu de temps. Et puis je termine par deux choses. Je suis assez curieuse de voir ce que va donner notre marché de Noël quand même, avec 2,5 millions de visiteurs. Notre marché de Noël lire notre monde en 2024. Alors évidemment, on va pas transformer tous les chalets de Noël avec des livres partout, etc. Parce qu'il faut quand même raison garder et ne pas non plus saturer les gens. Hein, parce que ça, il y a un moment, j'ai souvent entendu, on est déjà capitale mondiale, on est déjà capitale de tout. Donc là, je m'explique beaucoup. Donc le marché de Noël, voilà, avec les moments magiques, on a testé les brigades poétiques du marché de Noël cette année, où ça donne une ambiance très particulière. Et puis pour finir, alors je sais, c'est peut-être anecdotique, mais c'est parce que j'y tiens et que je trouve que symboliquement c'est beau, nous aurons notre cuvée Lire Notre Monde avec du vin d'Alsace. Voilà, donc il y a de tout, il y a à la fois évidemment des traces, matérielles et tangibles à travers le caractère typographique, la grande lecture, et dans cette grande lecture, en fait, j'englobe aussi tous les récits de vie. La connexion avec les autres champs de politique publique, que ce soit sport-lecture, mais aussi évidemment avec notre dispositif sur lecture-bien-être, dont je n'ai pas parlé pendant l'entretien, mais qui est aussi important. Voilà, et puis pour terminer avec le marché de Noël, un moment assez féerique à Strasbourg. Vous m'avez demandé un échantillon, c'est très frustrant, mais c'est ce qui attise un petit peu ma curiosité, ce que je viens d'évoquer. On va aussi beaucoup vibrer dans des petits moments où on sera 4-5 personnes avec des personnes qui ne seraient jamais arrivées à se parler s'il n'y avait pas eu la capitale mondiale du livre, et ça va être beaucoup plus discret, ça va passer un peu sous les radars, mais ça va changer la vie de pas mal de gens, je pense, au sens qui vont se sentir accueillis.
Eh bien, merci Anne-Marie Bock, merci vraiment chaleureusement d'avoir pris de votre temps précieux pour répondre à nos questions. Ce podcast vous était proposé par la e-communauté Culture et Territoire. Alors partagez-le, partagez ce podcast, faites connaître ce projet passionnant qui est Lire Notre Monde. Et peut-être aussi inspirez-vous-en pour vos services et puis pour vos politiques en bibliothèque et ailleurs d'ailleurs, parce que là, encore une fois, on l'a bien vu aujourd'hui, le livre, ça n'est pas qu'une affaire d'école ou de bibliothèque, ça va bien au-delà. À très vite sur Fréquence T, la web radio des territoriaux.
Au revoir.
Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.